temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Petite devinette pour présenter notre invitée de la semaine. Elle fut juge pour ce jeu télévisé québécois de culture générale mettant en compétition deux équipes d'écoliers de niveau secondaire. Pour vous aider à trouver le titre de l'émission, en voici un des thèmes musicaux, car il y en a eu plusieurs. Génie en herbe, bien sûr, vous aurez reconnu le thème. Alors, on accueille avec plaisir Francine Payette, juge et aussi celle qui construisait ou écrivait les nombreuses questions. Bonjour à vous.
Bonjour, M. Dubois. Quel plaisir de vous retrouver.
Mais oui, ça a été une émission, il faut d'abord le dire, qui a été diffusée à partir du 5 octobre 72 sur la station CBOFT d'Ottawa et qui portait le nom de F égale Emma. Elle était animée par Serge Arsenault. Puis, à partir du 4 juin 1973, l'émission est diffusée sur tout le réseau et j'y étais participant pour cette première année. Et nous, on s'est rencontrés 10 ans plus tard.
10 ans plus tard, alors que la formule avait fait ses preuves. Alors, d'Ottawa, d'où elle était originaire, elle avait été transférée à Montréal. Et moi, c'est là que j'entre dans la mêlée, au début des années 80. Et je suis rédactrice de questions et juge de match. Et je fais les séries nationales auxquelles vous aviez participé à Ottawa. Les séries nationales avaient été rapatriées à Montréal. Et ça me permettait de rencontrer des jeunes qui venaient de tout le Canada. On enregistrait durant la fin de semaine de Pâques. Et puis, il y avait ces séries nationales, donc on faisait, je pense, 12 émissions en 3 jours. Et puis, il y avait des spéciales. Alors, je vous rencontre à l'occasion de la spéciale. Radio-Canada voulait créer un événement en faisant revenir les génies en herbe du tout début de l'émission. Alors, j'avais été pas mal impressionnée parce que vous aviez 26, 27 ans à l'époque. Vous étiez 8 personnes à pleine possession de vos moyens.
Oui, mais vous aviez quand même posé des questions qui étaient quand même solides.
Ah oui, est-ce que vous avez un souvenir d'une de ces questions-là?
Ben, en fait, les questions portaient sur l'année 1973 et on était déjà en 1983. Alors, il fallait vraiment faire appel à notre mémoire. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de questions qui portaient sur le conflit au Vietnam, entre autres. Au plan de la culture, il y avait eu l'inauguration de la fameuse Maison de Radio-Canada en 1973.
Alors, on allait chercher, quand on rédigeait les questions et qu'on avait un mandat avec un thème, ben là, on creusait. Alors, c'est sûr que pour vous, des fois, on allait peut-être un peu dans les détails, là. Mais c'était toujours intéressant. Moi, j'entendais le thème là, tantôt, puis je me rappelais des studios, puis je me rappelais d'avoir vu défiler des jeunes semaine après semaine là, qui arrivaient avec les yeux brillants, puis avec tout ce qu'on peut penser là, de ressources. Puis une observation, je peux me permettre de vous dire une observation que j'ai faite à force de voir des jeunes défiler devant moi pendant des années. Mm-hmm. Il y avait à cette époque-là des écoles de filles et des écoles de gars. Là. Quand même, il en restait quelques-unes. Oui. Quand c'était des écoles de filles, évidemment, l'équipe 4 filles, elles étaient toutes très bonnes.
Oui.
Quand c'était des écoles mixtes, il y avait souvent 3 gars-filles. Il y avait rarement 3 filles, 1 gars.
Ah oui?
C'était généralement 3 gars, 1 fille ou 2 gars, 2 filles dans certains cas. Et ce que j'avais observé, c'est que la fille ne répondait que si il n'y avait pas de réponse du côté des gars. Alors, mes conclusions, c'était que les filles ont moins de vont pas se lancer de peur de faire perdre l'équipe, là.
Mais ça a beaucoup changé, maintenant.
J'aimerais ça voir ça, maintenant.
Oui,
hein, si
oui.
Ça revenait,
oui,
là,
probablement, au plan des mœurs, place de la femme est plus assurée, plus assumée.
Les filles ont-elles plus confiance en elles dans une situation de compétition d'équipe? Je serais curieuse de voir ça.
Intéressant aussi de savoir voir le nombre, c'est incalculable le nombre d'élèves qui ont pu passer durant toutes ces années, parce que l'émission, il faut bien le dire, a tenu l'antenne jusqu'en 1997, donc pendant 25 ans. Et il y a eu une reprise en 2001 ou 2002 ouais. avec Stéphane Bureau, ça n'a duré qu'une année. Mais il y avait vraiment un esprit, j'allais dire presque chevaleresque pour pouvoir remporter la partie. On s'y préparait sérieusement.
Absolument. Je me souviens d'un article que Louise Cousineau avait écrit au début des années 80. Elle disait, son titre, c'était « La Coupe Stanley des sportifs cérébraux ». Ça, ça avait entraîné une polémique parce que Claude Jasmin avait répondu à ça, là, que c'était plutôt des têtes, c'était pas des têtes bien faites. Là. En tout cas, ça avait été drôle, mais c'était les élèves, parce que j'étais dans le milieu de l'enseignement, les élèves concevaient vraiment ça là, comme étant, là, c'est la Coupe Stanley, c'est là que le match se joue. Là.
C'était comme une petite folie, parce que vous nous avez apporté beaucoup de musique, et la première, c'est une chanson, je fais un jeu de mots, c'est une chanson de Lynn Renault, et qui a pour titre...
Toi, ma petite folie.
Ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. C'est toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Tu es un garçon curieux, j'ai bien dû m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. J'ai perdu mon vieux défaut de trouver bizarre que tu te lèves à minuit et quart pour accorder le piano. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quel cadeau du jour de l'an penses-tu me faire? Vas-tu m'offrir un hélicoptère ou un éléphant blanc? Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quand on reçoit tes copains, ils demandent sans malice si le dîner a lieu dans l'office ou dans la salle de bain. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Mais je t'aime à la folie.
Francine Payette est avec nous aujourd'hui. Pourquoi toi, ma petite folie?
Ben, c'est que moi, je vivais sur le plateau. Je suis un peu produit du plateau. Mon père était un pompier à Montréal. Ma mère, une ménagère. On était dans un milieu correct. Là. On gagnait bien. Mais la musique était omniprésente. On avait un tourne-disque là, avec un RCA Victor. Et puis, mon père chantait. Et le souvenir, j'essayais de me rappeler le climat de cette période-là. Puis c'est un climat qui est assez joyeux. Et puis, cette chanson-là qui m'est venue. Je me souviens de l'avoir entendue sur le tourne-disque et de l'avoir entendue chanter. Et je la trouvais particulièrement entraînante. Là.
Vous avez eu une belle enfance à Montréal.
J'ai eu une très, très belle enfance à Montréal. Alors, on était tout près de la pharmacie Mont-Royal, où il y avait un œil magique. Là, les portes s'ouvraient tout seul quand on... C'était magique. On était près du Parc La Fontaine, où il y avait... Parc La Fontaine, il faut le voir, à cette époque-là, c'était vraiment... c'est notre Central Park à nous. Là, c'était magique. magique. Il y avait des étangs, des canaux.
Et c'est l'époque où la famille, au sens élargi,
oui,
était très présente.
Tout
vous avez
fait
des souvenirs, vous, très vivaces, par exemple, de sortir avec vos tantes.
Ah, mais moi, j'avais des tantes fées, moi. Quand je lis là, les histoires, puis qu'on dit que les tantes fées se sont penchées sur le berceau, moi, j'ai
vu ça. J'aime beaucoup cette expression.
J'avais des tantes fées parce que j'étais la plus vieille de qui arrivait dans la famille. Alors, mes tantes, puis mes frères et sœurs ont connu la même chose. Mes tantes nous ont beaucoup gâtés. Et quand on était reçus chez les grands-parents, où étaient mes tantes et mon oncle, c'était... il n'y avait plus d'enfants, eux, alors c'était la parole. Il y avait... La table était mise avec la belle vaisselle, puis il y avait quelque chose d'un peu fantastique. Et puis, on chantait. Il y avait... Mes tantes avaient les cahiers de la bonne chanson, puis je me souviens qu'on avait nos cahiers, puis on chantait. Il n'y avait pas de musicien. De sorte que je pense que c'est comme ça que ma mère a décidé, avec mon père, de serrer leur ceinture, puis d'acheter un piano chez Archambault.
Les cahiers de la bonne chanson.
Puis les cahiers de la bonne chanson, c'était comme une inspiration, puis on voulait continuer à ce que la musique soit présente.
Mais en dépit des cahiers de la bonne chanson, on subissait parfois aussi l'influence de nos voisins du Sud, les comédies musicales.
Absolument.
Broadway.
Oui, mes tantes filles, il y en avait une qui aimait les comédies musicales. Alors, elle était abonnée à un club d'achat de disques. Alors, quand elle les avait... En tout cas, elle me les donnait. C'était assez généreux parce qu'elle devait aimer ça, les entendre. Moi, j'en ai usé, là, Oklahoma, des West Side Story.
South Pacific.
En tout cas, j'ai encore les pochettes, pour vous dire. J'ai conservé les pochettes.
Et si j'évoque pour vous le titre Moon River, ça fait référence à quoi?
Ça, écoutez, ça, c'est le cadeau par excellence. Une de mes tantes filles, quand j'avais 17 ans, m'avait amené en voyage à New York. Alors, l'avion première, c'était une première pour moi. On avait une chambre d'hôtel avec... le souvenir que j'ai, c'est que la porte était double et puis on pouvait mettre les vêtements dans l'entre-porte. C'est comme des choses incroyables qui arrivaient. Puis on est allé voir le Radio City Music Hall et le film qu'il y avait après les danseuses et tout ça, le film, c'était Breakfast at Tiffany's avec la merveilleuse Audrey Byrne. Et cette chanson Moon River, que je peux pas l'entendre actuellement sans me rappeler ce moment-là qui était si merveilleux.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. A lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Bien sûr, très chaude de Frank Sinatra pour interpréter pareille chanson, Moon River. Un beau souvenir pour Francine Payette qui est avec nous, qui a été juge et qui a écrit de nombreuses questions pour le quiz Génie en herbe, qui a tenu l'antenne pendant 25 ans. Ça demandait beaucoup de travail que de rédiger de telles questions.
Absolument, parce que faut dire qu'à ce moment-là, j'étais une enseignante à plein temps. J'enseignais l'histoire, l'économie dans une école secondaire. J'avais deux enfants, une maison à entretenir. Donc, mes fins de semaine, c'était pas mal ça. Ça passait là-dessus. Mais je dois dire que si je me souviens bien, je devais faire la livraison des... On avait 39 émissions durant l'année. C'était par... il me semble que c'était par groupe de 13, mais moi, je m'installais à la bibliothèque de Brossard, qui, soit dit en passant, a toujours été une bibliothèque merveilleuse, même si ça commençait. Et puis, dans les années 80, j'avais acheté aux États-Unis un petit RadioShack modèle 100. Donc, j'avais 40 colonnes de large, puis 8 lignes de haut. Et ça, moi, j'avais 125 questions à faire par émission. Et puis, je réussissais à les faire. Je m'installais à la bibliothèque avec mon ordi et que tout le monde venait me voir parce qu'à l'époque, ça existait pas.
À peu près pas, non.
Et puis là, je faisais mes recherches.
Est-ce que vos recherches touchaient tous les domaines?
On avait un canevas de base sur lequel on s'entendait avec la réalisatrice ou le réalisateur. Et puis, j'avais toujours un co-rédacteur. Nous étions deux. Alors, on se partageait les rubriques. On devait toujours faire 5 questions par rubrique. Alors, ce qui était assez formidable, c'est que moi, je faisais mes questions à la bibliothèque de Brossard au gré de ma fantaisie. J'allais dans les rayons, puis j'allais dans les références. Et quand j'arrivais sur le plateau puis qu'on posait les questions, si c'était une suite d'îles, par exemple, qui aurait été sollicitée pendant la Deuxième Guerre mondiale, mettons qu'on s'en va avec ça, les élèves qui étaient là saisissaient ma façon de rédiger les questions. De sorte que quand il avait saisi que la première, c'était telle île, là, la deuxième, il s'essayait, puis là, il avait saisi mon pattern, puis il y avait les questions. Alors, chaque semaine à Radio-Canada, on recevait des lettres ou des téléphones. Semble-t-il, les téléphones, j'avais moins conscience, mais les lettres, je les voyais, où les gens disaient c'est pas correct que les élèves aient vu les questions avant. Mais ces petits mots juste là, ils saisissaient. Il saisissait exactement ma façon de
des petits
de
brillants,
penser.
Quoi.
Des petits brillants. C'était formidable.
On va revenir à la musique. Rêve et conquête.
Ah, quel beau souvenir.
Hervé Brousseau.
Ah, écoutez, ça, j'étais en 7e année. Et puis la JEC, je ne sais pas si ça commençait à cette époque-là, on parle de la fin des années 40, là. Non, de la fin des années, ouais, c'est quelque part dans ce coin-là, je pense que c'est 54. Alors, la JEC avait décidé de toucher les jeunes au secondaire, jeunesse étudiante catholique, et puis c'est une sœur, moi j'étais dans une école où il y avait des sœurs Sainte-Anne, puis je me souviens que j'avais une tâche là, de responsable de classe, je sais pas ce que c'était, là, peut-être juste de prendre les noms de la rangée, mais bon.
J'étais déjà une organisatrice.
Mais le souvenir que j'ai, c'est que quand cette chanson-là est arrivée, dans toute l'école, on la chantait, aussitôt qu'on était dans le corridor, on la chantait, je me rappelle encore des paroles. « Mets ton chapeau de rêve et de conquête et prends le bras de ton pire ennemi. » Vive ensemble actuellement, c'est pas autre chose que ça. Là. Il l'avait. Ah, oh, c'est bon.
Si t'as des pieds, ce n'est pas pour écrire, c'est pour marcher sur les nouveaux chemins. Si t'as des mains, c'est pas pour démolir, c'est pour bâtir à grands coups de refrain. Mets ton chapeau de rêve et de conquête et prends le bras de ton pire ennemi. Mais n'oublie pas de ranger dans ta tête et tes projets
et ta boîte à outils. Si ton sourire est plutôt de grimace, et si ton œil a des reflets soucieux, va rafraîchir cette sombre cuirasse sous le soleil de grand-papa bon Dieu. Mets ton chapeau de rêve et de conquête et prends le bras de ton pire ennemi. Mais n'oublie pas de ranger dans ta tête et tes projets et ta boîte à outils. Si tu t'effrites, prends de longs babillages. Si tu jacasses plus que tu n'accomplis, ferme bien vite cette boîte à tapage et sois tenace comme un bon apprenti. Mets ton chapeau de rêve et de conquête et prends le bras de ton pire ennemi. Mais n'oublie pas de ranger dans ta tête et tes projets et ta boîte à outils. Lorsqu'un matin tu feras la pirouette dans le pays des adultes malins, il faudra bien mériter ta galette et sans mépris vivre ta vie qui vient. Mets ton chapeau de rêve et de conquête et prends le bras de ton pire ennemi. Mais n'oublie pas de ranger dans ta tête et tes projets et ta boîte à outils. Et tes projets et ta boîte à outils. Et tes projets et ta boîte à outils.
Francine Payette nous accompagne aujourd'hui. Si vous avez aimé l'émission Génie en herbe, comme moi je l'ai aimé parce que j'ai été le premier participant, c'était vraiment toute une épopée que de participer à l'époque. Moi, quand j'y suis allé, on ne connaissait rien de cette émission. Alors, on a découvert au moment où on enregistrait, mais les années suivantes, les élèves se préparaient, mais sérieusement, dans toutes les écoles.
Dans mon école, j'étais responsable de l'activité pendant un bon moment, et puis plusieurs de mes élèves me disaient qu'aussitôt qu'elles arrivaient en première secondaire ou qu'ils arrivaient en première secondaire, leur objectif, c'était de faire partie de l'équipe de Génie en herbe et d'aller à la télé. Parce que c'était ça, c'est vraiment la Coupe Stanley, c'était ça. Et comme Radio-Canada ne permettait pas à une école de participer deux années successives, là, comment maintenir la motivation? Alors, j'avais des collègues qui étaient comme moi responsables d'activités dans leurs écoles, puis on trouvait ça bien dommage. Comment faire en sorte que nos jeunes, ils décrochent pas? Alors, on a fondé au début des années 80 ce qui s'appelle le mouvement provincial Génie en herbe Pantologie. Et actuellement, je sais qu'il y a encore 113 écoles. Je trouve ça merveilleux.
Expliquez-moi la création de ce mot Pantologie.
Bon, alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on constatait que les jeunes de première et deuxième secondaire, surtout, vous savez, il y a une dynamique au secondaire, le deuxième cycle, puis le premier cycle, là, ça, c'est un petit peu, un peu baveux, les jeunes. Alors, souvent, les jeunes nerds qui faisaient partie des équipes, puis qui étaient en première, deuxième année, puis qui n'avaient pas encore appris à se défendre, étaient assez timides. Donc, on s'était dit, il faudrait trouver un terme, parce qu'on avait entendu des choses, ils disaient, on se fait appeler génisse, on n'aime pas ça, bon, outils. On avait Pierre-Paul Coulombe, qui était professeur de grec et de latin au Collège des Eudistes. Il dit, je vais en inventer un mot. Alors, il est arrivé avec pantologie, avec les racines de tout et connaître. Alors, le mouvement Génie en herbe pantologie. Pantologie, ça s'adressait à première et deuxième et troisième secondaire. Donc, on allait chercher les petits sans qu'il y ait une connotation trop génie en herbe, mais ils savaient que ça, c'était la graduation d'arrivée en génie en herbe en quatrième et cinquième.
Quand vous étiez adolescente, vous avez personnifié Jésus.
Ben oui.
Et il y avait un thème musical qui a marqué vraiment votre souvenir et qu'on va entendre pour terminer cette première partie. C'est la pièce de Jules Massenet, Méditation, Méditation de Thaïs. Et on va l'entendre interprété par les musiciens de chambre d'Atlanta. Sûrement un beau souvenir pour vous.
Absolument. Je me vois encore dans la salle de ciment là, de l'école Saint-Arsène devant l'évêque, écouter l'évêque, le curé, les religieuses. Et puis là, je suis habillée en Jésus. Puis j'entends ça. Thank you.
Thank you.